Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir, ça va très très bien. Je suis un petit peu émue, hein, comme je crois tout le monde l'est quand on est en ligne avec vous et qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Moi, mon histoire, elle date d'il y a très longtemps. Et pour la première fois depuis 30 ans, je viens parler en public.
D'accord.
Ça fait 10 ans que j'essaye d'écrire un livre sur le sujet que j'arrive pas à mettre en place parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses. Et en même temps, c'est quelque chose de très éprouvant qui m'est arrivé. Donc maintenant, 30 ans après, à 53 ans, j'ai besoin d'en parler. Et je crois aussi... pouvoir avoir d'un côté un effet thérapeutique à discuter de ça avec vous et vos auditeurs, et en même temps peut-être pouvoir orienter ou donner de façon tout à fait humble des conseils aux familles des personnes qui ont, comme moi, été victimes de viol. Alors moi, c'était un petit peu particulier. Hein. C'était
avant toute chose, Nathalie, c'est quelque chose qui vous habite encore fortement aujourd'hui, qui tord un petit peu votre quotidien, c'est le fait de...
Alors en fait...
Le fait de décider d'en parler aujourd'hui, vous pensez que ça aura un effet salvateur sur vous ?
Alors je pense que ça va avoir un effet salvateur sur moi, parce que j'ai quand même, chez nous, notamment chez mes parents, c'était pas le genre de choses qu'on pouvait aborder.
Oui.
Donc mon père l'a su 6 mois après, et ma mère l'a su, je pense, au moins un an et demi après. Et en fait, personnellement, j'ai 6 ans après, j'ai rencontré mon mari, et voilà, après 6 ans, traversé du désert, on a eu une vie heureuse, j'ai réussi à avoir des enfants, et je me dis, voilà, maintenant les enfants ont grandi, bon, ça fait 23 ans qu'on est mariés, la vie est pas un fleuve tranquille, il y a beaucoup d'événements qui ont arrivé, et c'est vrai que je prends conscience maintenant, notamment à travers les médias qui parlent beaucoup des violences faites aux femmes, etc., qu'il y a des choses qui n'ont pas changé depuis 30 ans et dont il faut parler, et pour moi c'est très important en fait d'avoir le sentiment d'aider à faire changer les choses. Moi,
Vous avez totalement raison.
Alors, le retentissement sur ma vie actuelle n'est plus... Enfin, moi, j'ai fait vraiment abstraction de tout ça très rapidement, mais c'est ressorti l'année où j'ai rencontré mon mari et surtout où j'ai mis au monde mon enfant.
Oui.
Alors qu'on m'avait dit que je ne pourrais plus, à la suite de cet événement, avoir d'enfant parce que ça a été un viol collectif avec torture.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai un fils et un jour, il faudrait qu'il le sache, ce que sa mère a vécu et ce qu'elle présente. Enfin, moi, il m'a rendu mère,
Nathalie,
il m'a rendu
Nathalie,
femme, mon mari aussi. Oui.
Pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu ? Parce que j'ai un peu de mal à vous capter, en fait, et il y a quelques mots qui ne passent pas très bien.
D'accord. Alors, est-ce que j'entendais en effet.
Là, c'est très bien.
Voilà,
je vous entends beaucoup mieux.
D'accord, je me suis un petit peu dépassée dans la pièce.
C'est arrivé quand et dans quelles conditions, alors, ce qui vous est arrivé ?
Alors, en fait, c'est arrivé dans des conditions vraiment particulières, parce que j'avais à l'époque, c'était l'été de mes 22 ans, j'avais un petit copain qui s'appelait François et que je connaissais depuis un an, qui était un ami de faculté de ma sœur. Et nous étions très complices et un peu tous les deux... je dirais d'un milieu assez strict où il y avait beaucoup de place pour l'originalité, et en fait c'était quelqu'un d'assez original, et cet été-là, c'était en août 89, on a décidé sur un coup de tête sans que nos familles soient au courant, moi je travaillais, je venais d'acheter une voiture, de partir aussi loin que possible avec une carte d'identité et une carte bleue qui ne contenait pas beaucoup d'argent, et donc un petit peu comme ça à l'aventure, en dormant chez l'habitant sans prévoir club, vacances, camping, choses comme ça. Et donc, on est parti en voiture, on prenait vers la Suisse, parce que lui, il faisait des recherches généalogiques dans ce pays. Et puis ensuite, nous avons traversé l'Italie. Donc, ça s'est étalé sur tout le mois d'août. Et bon, voilà, on a fait des rencontres, des gens sympas. On est arrivé ensuite en ex-Yougoslavie où là, on a été superbement accueillis par des fermiers qui nous ont offert le gîte, le couvert, contre quelques cours de français pour les enfants qui apprenaient à l'époque le français. Enfin, vraiment
une belle expérience.
Et en fait, on est arrivé en Grèce. Et alors là, en Grèce, ça a été vraiment, pour moi, la révélation. Un pays merveilleux, des gens très accueillants. Alors, on dormait dans la voiture ou chez l'habitant. Et finalement, un soir, on s'est retrouvés sur une plage avec un marché qui durait toute la nuit. Et des gens nous ont proposé de nous héberger. Ils faisaient à manger, donc ils nous ont proposé un repas. Ils nous ont proposé dormir dans l'arrière-boutique. Voilà, enfin, ils nous ont fait confiance. Il y avait quand même des marchandises, etc. Donc, on est resté avec eux quelques jours. Et finalement, moi, je me suis trouvée bien là et je voulais rester là pour finir mes vacances. Hein. Je reprenais mon travail début septembre. Et lui, François, était étudiant, donc n'avait pas de date butoir pour revenir.
Oui.
Et donc, je voulais rester en Grèce. Et lui, en fait, ce qu'il m'avait dit, on ne va pas se dégonfler, on va aller jusqu'au bout. On peut passer en Turquie avec une carte d'identité. Donc, on va franchir la frontière turque. Et je sais quand même que la Turquie, c'était pas un pays où on était super en sécurité. Et j'étais pas très à l'aise le jour où on arrivait en Turquie. Il m'a dit, écoute, on va aller jusqu'à la frontière entre l'Occident et l'Orient. Donc, le plus loin où on pouvait aller, en fait. Donc, dans un pays, dans un endroit quand même assez dangereux. Et c'est vrai que ce copain-là avait une façon aussi un petit peu de d'aimer un petit peu se mettre en danger, enfin, de repousser un peu certains retranchements, même chez moi. J'ai essayé de comprendre beaucoup de choses par rapport à son comportement des années après et même encore maintenant ça me travaille, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu. Et du coup nous sommes arrivés en Turquie et là immédiatement le climat par rapport à la Grèce a changé. On était jusqu'à Istanbul, donc bon, on dormait à l'hôtel au départ et après Istanbul il a décidé qu'on allait se rendre à Ankara.
Et donc, ce garçon, pardonnez-moi de vous interrompre, lorsque vous dites que vous n'avez jamais su interpréter vraiment, en tout cas décoder son attitude à l'époque, il a eu un rôle particulier dans ce qui vous est arrivé ?
Avec le recul, je pense, j'en ai très très peu parlé, mais je pense, je me suis documentée, j'ai lu beaucoup et je pense en effet qu'il a eu un rôle. C'est quelqu'un qui était quand même particulier dans le sens où on se connaissait depuis un an.
Oui.
On n'avait jamais eu de rapport sexuel. Il avait alors moi j'étais pas spécialement en demande parce que voilà j'étais jeune, j'avais des petits copains, ils me plaisaient pas spécialement et on était potes en fait voilà un petit peu dans nos délires, des marchés pieds nus dans Paris la nuit etc.
Oui.
Mais quand même c'est quelque chose au bout d'un moment qui m'a interpellée, notamment cet été où on est parti en vacances, que finalement on dormait dans la voiture ou à l'hôtel dans le même lit sans qu'il se passe rien.
D'accord.
Et ça a été un petit peu une interrogation et lui en fait m'avait dit écoute, moi, je trouve ça très beau de ne pas avoir de rapport et de franchir le pas si un jour on devait se marier. Et donc, on avait parlé cet été-là éventuellement de rien faire avant le mariage.
D'accord.
Et moi, finalement, je m'étais dit, bah, c'est plutôt noble, c'est pas courant. Il y a 30 ans, à 22 ans, les garçons n'étaient pas du tout comme ça. Et voilà, j'avais trouvé ça assez sympa. Donc, en fait, on avait quand même une relation un peu particulière. Mais aussi, je dirais quand même, il y avait... Enfin, je ressentais quand même plus... Enfin, cet été-là, quand on allait en Turquie, je ressentais quand même une pression et une insistance de sa part d'aller toujours plus loin. Par exemple, une nuit, on avait dormi sur une plage.
Oui.
Et au-dessus de la plage, sur la falaise, il y avait des Turcs donc, qui se baignaient toute la journée, que des hommes. Lui, François, se baignait. Et moi, je n'osais pas me baigner au milieu d'hommes. Et leurs femmes étaient donc avec des robes longues et se baignaient que de nuit, tout habillées. Et du coup, François m'encourageait à aller me baigner dans l'après-midi avec des hommes qui étaient...
Je comprends. C'était plutôt un garçon qui aimait dépasser les limites. En tout cas, il se sentait visiblement partout, un peu citoyen du monde, partout chez lui.
Voilà.
Mais sans sans pour autant voir et respecter des règles liées au pays. On va marquer une petite pause, Nathalie, et puis on se retrouve dans quelques instants afin de, voilà, de vous écouter pour le reste de votre récit. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous sommes toujours avec Nathalie qui nous raconte un voyage qui date maintenant de 30 ans. De 1989, cela fait 30 ans. Un voyage d'abord en Yougoslavie, puis en Grèce, où tout se passe merveilleusement bien. Pardon. Vous êtes en compagnie de ce garçon, François, qui se sent bien partout, un peu un citoyen du monde. On l'évoquait.
Un peu dans la toute-puissance, en fait.
Ouais, il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver.
Voilà, c'est exactement ça. Il ne peut rien m'arriver et avec moi, il ne peut rien t'arriver non plus.
Et ça, c'est vrai, on peut l'évoquer avant même que vous nous révéliez ce qui est arrivé. Il est vrai que c'est dangereux, ça, ce type de comportement, parce que on ne voit pas arriver le danger lorsqu'on est comme ça.
Voilà.
Alors, vous êtes donc sur cette falaise.
Du coup, on est donc sur cette plage où les hommes se baignent la journée, les femmes se baignent à la nuit tombée. Donc François propose de me baigner avec lui, avec les hommes qui viennent se baigner, et je refuse. Donc le soir, les femmes se baignent en robe longue. Moi, je me rappelle, j'avais une chemise de nuit, parce que les nuits sont froides, même en été. Ouais. Et du coup, j'avais une chemise de nuit longue. Donc le soir, par respect, je me baignais avec les femmes avec une chemise de nuit longue pour respecter un peu le pays dans lequel je me trouvais. Mmh. Et donc, on a passé un soir et une nuit à dormir sur cette plage. J'étais quand même pas très, très rassurée parce que, bon, je me disais, on est en Turquie, on est tout seul sur cette plage, la voiture garée en haut. On avait juste nos instruments de musique, chacun une flûte traversière. Mmh. Et le lendemain matin, en fait, on a eu la bonne surprise de rencontrer un couple qui avait beaucoup voyagé, qui parlait très bien français et qui était guitariste, qui avait leur guitare tous les deux, et nous, nos flûtes traversières, et on a passé une journée magnifique avec ces gens-là. Oui. Donc, on a fait beaucoup de musique, et ils nous ont proposé le soir le gîte chez eux. On était mangé au restaurant avec eux, on est arrivé chez eux, ils nous avaient préparé une chambre, ils avaient une très très belle maison, on a fait de la musique, parlé beaucoup de la France, des pays que nous on avait traversés, notre expérience, etc. Enfin, c'était vraiment la plus belle et la dernière belle soirée qu'on a passée. Donc on a dormi chez eux et le lendemain matin, le monsieur qui s'appelait Mehmet, et c'est un nom qui m'a marqué parce que quand je l'entends encore maintenant, je pense à lui, je me dis peut-être qu'il était au courant des journaux de ce qui s'était passé, a discuté avec François, et François lui a dit qu'on allait partir en direction d'Ankara, vraiment au plus loin de la frontière syrienne en fait. Et le monsieur a été pris de panique et nous a dit tout de suite, surtout partez pas là-bas, c'est très dangereux, en plus vous êtes des touristes français avec une voiture immatriculée en France, enfin vraiment il était en panique totale. Il nous a supplié de ne pas partir, de rebrousser chemin, de retourner en Grèce, voire de rester, si on le souhaitait, encore une ou deux soirées chez eux. Il nous hébergeait volontiers. Enfin, vraiment, il nous a mis la pression. Et quand on est parti, j'ai dit à François, on est parti dans la journée. J'ai dit à François, écoute, moi, j'ai vraiment peur d'aller là-bas. Et comme d'habitude, il m'a dit, écoute, non, on y va, t'inquiète pas, je suis là, etc. Et en fin d'après-midi, en effet, on approchait, on n'avait pas d'hôtel ce soir-là, on n'avait pas de lieu où on dormait, on n'avait rien prévu. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de GPS, on avait juste une carte. Et donc, on approchait de cet endroit-là. Et quand la nuit est tombée, je ne sais plus quelle heure il était, peut-être vers 20h, moi je conduisais, François était fatigué. On avait quand même passé beaucoup la nuit d'avant à discuter, à faire de la musique. On s'était levé tôt le matin avec ces gens. Et du coup, on a décidé finalement de s'arrêter, de faire une petite pause sur un sentier, un petit sentier au bord de la route, à côté d'un champ de pastèques. Et on s'est dit qu'on allait se reposer un petit peu dans la voiture, peut-être une petite demi-heure, et reprendre la route.
Oui.
Et là, vraiment, j'avais peur ce soir-là. François a pris un sac de couchage et s'est mis dehors pour dormir, dehors dans un sac de couchage. Et comme il y avait beaucoup de moustiques et que j'avais peur, moi, je suis restée au volant de la voiture avec les clés dans ma poche,
oui,
au cas où je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et au cas où il y aurait un problème, que je puisse tout de suite redémarrer et partir.
Oui.
Et du coup, la nuit est tombée et le drame a commencé à 1h du matin. François m'a réveillée, donc j'avais fermé la voiture, donc il m'a demandé d'ouvrir pour rentrer. Il s'est assis à côté de moi, il avait laissé son sac de couchage rouge, c'est important, dehors devant la voiture. Et
oui,
il m'a dit, écoute, voilà, il se passe quelque chose, il y a 3 hommes armés autour de la voiture. Donc j'ai vu tout de suite, en effet, 3 gars avec des têtes vraiment gangsters. C'était des fermiers du coin, en fait, qui étaient armés de fusils de chasse et de couteaux. Et donc, ils nous parlaient en turc. Bon, moi, je parlais anglais-allemand, François aussi, espagnol. On essayait de se faire comprendre dans toutes les langues. Et en fait, ils ne nous comprenaient pas. Ils nous faisaient signe de sortir. Et je me suis dit, bah là,
si
voilà, ils veulent la voiture, ils veulent de l'argent, ils veulent qu'on s'en aille. Et mon réflexe, en fait, ça a été de me dire, mais non, je ne vais pas abandonner ma voiture. Donc, j'ai pris les clés dans ma poche, j'ai démarré. Et je suis repartie en direction de la route, en fait, sur le petit sentier, en direction de la route, vite fait. Et en fait, les gars ont été un peu interloqués sur le moment, donc ils ont pas réagi tout de suite. Et je crois qu'on a dû faire quelques dizaines de mètres. Et brutalement, ils ont commencé à nous tirer dessus. Donc là, c'était la panique. Moi, je me disais, j'avais qu'un seul objectif, c'est de rejoindre la route, d'accélérer, de les semer, parce qu'ils étaient quand même à pied. Et là, ça, ils ont commencé à tirer dans la lunette arrière de la voiture. Donc je sentais, il y a une balle qui est passée au ras de mon oreille, donc je sentais les balles passer. Mais j'arrivais quand même à tenir le cap. François disait rien, en fait. Je crois qu'il était... Alors j'ai su après que ces gars étaient venus quand même une demi-heure avant. Parler à François et que François s'était pas du tout affolé, s'était rendormi. Donc en fait, François, je sais pas ce qu'il pensait, je sais pas s'il disait que j'allais m'en tirer, si c'était un nouveau truc un peu voilà, mais bon, je comprenais pas trop, il avait pas l'air d'être spécialement en panique. Et du coup, on est parti donc en direction de ce sentier. J'avais du mal à allumer les phares de la voiture. On était un peu dans la nuit. Il était plus d'une heure du matin.
Oui.
J'étais fatiguée. Et finalement, ils ont tiré dans les pneus de la voiture, ce qui nous a fait dévier de notre route. Et les pastèques sont énormes en Turquie au mois d'août. Et on a dévié sur un champ de pastèques où là, très rapidement, j'ai perdu le contrôle de la voiture.
Oui.
Et finalement, on a fait 2 tonneaux et on s'est retrouvés voilà, sur le toit de la voiture. François avait perdu connaissance et moi j'ai été blessée. J'avais les joues en sang, j'avais quelques blessures au visage, les vitres de la voiture étaient cassées. Et donc les 3 hommes se sont approchés de la voiture, se sont approchés de mon côté en fait. Et je leur ai fait signe que j'étais pas bien, que j'étais blessée. Et je me suis dit, ils vont comprendre que là, la voiture, ben, ils peuvent même plus la voler et qu'en même temps, il faut appeler les secours. Et il y en a un qui m'a pris en fait. Et qui m'a sorti de la voiture et qui m'a traîné, je dirais peut-être à 30 ou 40 mètres de la voiture.
Oui.
Et qui m'a allongé par terre. Et je me suis dit, il va faire quelque chose, il va alerter. Et en attendant, il y en avait un autre qui remettait la voiture sur ses pieds. Les phares étaient toujours allumés, donc je voyais au loin la voiture qu'ils étaient en train de remettre en place. Et il y en a un qui est entré dans la voiture. Et les 2 autres, j'étais en pantacourt à ce moment-là. Immédiatement, quand je me suis retrouvée allongée, m'ont retiré mon pantacourt et ma culotte. Et là, je me suis dit, ils ne sont pas venus pour la voiture. Et ils sont venus pour ça, voilà, c'est pour ça que je vais me faire violer. Et le drame a commencé. En attendant, il y avait beaucoup de bruit dans la voiture, ça bougeait dans tous les sens, ça klaxonnait, il y avait des tressautements dans la voiture. Et quelques temps après, en fait, j'ai compris que François aussi était en train de se faire violer par le gars qui avait remis la voiture voilà, en place. Et donc, moi, ils m'ont tiré mon short. Et donc, je criais, je hurlais. Mais bon, on était en pleine campagne. Enfin, il n'y avait personne en pleine nuit. Et donc, il y en a un qui a commencé voilà, à soulever mon t-shirt, à me toucher les seins, à me regarder, etc. Et comme je criais, il a plié mon pantalon, qui était assez épais parce que je ne me découvrais pas vraiment beaucoup dans ces pays-là. Et il me l'a tourné, roulé en boule et il me l'a mis dans ma bouche et il m'a bouché le nez. Et du coup, voilà, j'étais en train d'étouffer. Et de temps en temps, il retirait ses doigts de mon nez pour me laisser prendre une respiration. Et puis, dès que j'ai essayé de me débattre, il me touchait les seins, il me tripotait partout. Il jouait avec son couteau autour de mes parties sexuelles, avec son fusil. Il avait armé son fusil avec des balles, son fusil de chasse.
Et il vous avait violé déjà ou...
Et non, pas du
non,
tout.
Pas encore.
Il s'amusait, en fait. Il tripotait beaucoup ma poitrine. Mmh.
Il était en train de temporiser et de voir comment vous réagissiez, visiblement.
Voilà. De
vous faire peur, de jouer avec
moi.
Vous. Voilà. Je suis désolé, Nathalie, on va être obligé de marquer encore une légère pause, d'accord ? On se retrouve tout de suite. D'accord,
à tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Nathalie qui nous évoque ce soir ce voyage un peu en enfer hein, après la Yougoslavie, après la Grèce, une fois passé en Turquie et depuis quelques jours en Turquie, vous êtes agressé une nuit dans la campagne turque par trois hommes et vous étiez en train d'évoquer ce viol et cet homme qui joue avec vous alors que vous entendez que votre compagnon est déjà en train de lui être agressé.
Voilà, dans la voiture. Et en fait, donc au bout d'un moment, ils s'amusaient. Enfin, ils étaient deux. Alors, ils avaient, j'ai appris après leur âge, il y en avait un de 17 ans, un de 35 ans et un de 53 ans. Et donc, c'était le plus jeune qui était avec mon ami François et les deux autres qui étaient avec moi. Et au bout d'un moment, ils ont vu que j'avais compris que soit je ne pouvais pas respirer, soit il fallait que je désormais, ils ont tiré mon short de ma bouche. Et donc là, je suis restée, enfin, je regardais, il y avait une nuit étoilée magnifique et je me suis canalisée sur une seule chose, c'est que j'avais un ours en plus que j'en ai partout.
Oui.
Et du coup, je me disais, pourvu qu'il ne fasse pas mal à mon ours. Et du coup, là, ils ont commencé à me violer chacun leur tour, de toutes les façons dont on peut violer une femme, hein, c'est-à-dire avec des fellations, etc. Ils ont aussi trouvé des branchages, des choses comme ça qu'ils ont introduit où ils pouvaient. Donc, je me suis mise à saigner très abondamment parce que ça m'a énormément blessée. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui a été chercher François, qui l'a traîné, qui avait un fusil sur la tempe, et donc ils lui ont demandé de regarder. Et de jamais baisser le regard, à chaque fois qu'il baissait le regard, il se prenait un coup de bout de fusil dans la figure pour qu'il ne quitte pas son regard de ce qu'on faisait. Et tout ça, ça a duré 4 heures. Donc les trois, chacun leur tour, avec de temps en temps, ils armaient leur fusil, c'était des fusils de chasse, et ils mettaient une balle dans le fusil de chasse, ils me l'introduisaient, et ils me faisaient comprendre qu'ils allaient tirer. Et il fallait pas que François bouge, fallait pas que je bouge. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, je me canalisais vraiment sur une chose, c'est que si c'est juste ça et qu'on peut repartir, ça va aller. Et au fur et à mesure, ça avait commencé à 1h du matin, ils nous ont laissés pour mort, en fait, à 5h du matin. Le jour se levait et ils sont partis parce qu'il y a un fermier qui a entendu finalement des voix d'hommes. Infirmier apparemment du coin et qui a tiré en l'air, qui était avec du bétail, qui a tiré en l'air et qui a dit qu'est-ce qui se passe. Et du coup, les trois gars ont pris peur, ils ont piqué enfin deux, trois trucs dans la voiture, et puis ils sont repartis en courant, et voilà, moi j'étais allongée, je baignais dans mon sang, François était en état de choc aussi, et ce fermier, là je pense qu'il nous a vraiment sauvé la vie, parce que je crois qu'ils étaient au bord de mâcher, et quand on dit qu'on a peur à s'en faire dessus, mais c'était vraiment ça en fait, c'était une peur terrible, enfin je pensais que j'allais mourir là, mes parents ne savaient pas où j'étais, mes frères et sœurs non plus, on avait une carte d'identité, la voiture qui était à moitié foutue, enfin plus de pneus, plus de vitres, et là du coup le fermier tout de suite il nous a fait signe de partir, et donc il a trouvé les clés, il a donné les clés à François, ils m'ont allongé dans la voiture derrière, et il nous a poussé la voiture avec les pneus complètement explosés jusqu'à la route, et a réussi à nous expliquer que quelques kilomètres plus loin, il y avait un médecin qui devait ouvrir vers 8h et qu'il fallait qu'on aille le voir. Et du coup, on est reparti comme ça, et moi, je parlais plus. François m'a juste dit « ils t'ont violé », mais sans parler de lui, sans rien du tout, et après, moi, je parlais plus, je... Et en fait, c'était que le début de l'enfer, parce qu'on a vu à 8h du matin un médecin qui était très gêné, parce que vraisemblablement, c'est quand même des pratiques qui étaient assez courantes, je l'ai su après, dans les campagnes, un certain droit de cuissage, et il n'a pas voulu m'examiner, il n'a pas voulu surtout pas alerter la police. Il m'a simplement mis un liquide piquant, genre alcool, sur mes genoux qui avaient été blessés quand la voiture s'est retournée, et nous a demandé de partir. Donc on est reparti comme ça, sur la route, et finalement, on a trouvé un poste de police où on s'est arrêté, et là, en anglais, on a réussi à se faire comprendre. François parlait, moi je parlais pas du tout, j'étais d'ailleurs même en état quasiment, on m'avait assis sur une chaise en plastique dans le commissariat, c'était que des hommes, et là en fait on est resté toute la journée dans ce commissariat, donc François expliquait voilà, que, à quel endroit ça nous était arrivé, et les policiers ne voulaient pas prendre notre plainte, ils nous ont laissé comprendre qu'ils allaient faire justice eux-mêmes, qu'ils allaient retrouver les gars et qu'on allait les aider, donc ils nous ont embarqué l'après-midi, alors ils étaient 41 dans le car de police, rien de climatisé, avec une mer bleue, azur, et enfin je me disais, il y a tous ces gens qui sont en vacances et nous on est là voilà, avec, ça sur le dos.
Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que ça a été en justice là-bas ou
Alors finalement, donc ces policiers jusqu'au lendemain nous ont gardés, alors j'avais pas le droit de me laver, j'avais pas le droit d'uriner non plus. Et donc, il nous disait, et en effet, le deuxième jour, donc j'avais toujours pas vu de médecin, les policiers n'avaient toujours pas pris notre plainte, et le deuxième jour, ils ont chopé le plus jeune, ils ont retrouvé chez lui des objets qui nous appartenaient, et ils nous ont ramené finalement en fin d'après-midi du deuxième jour, donc nous, ça nous arrivait le dimanche soir, c'était le mardi soir, donc j'avais toujours pas eu de plainte, enfin j'étais assise sur une chaise, et je sais même pas, parce que je perdais beaucoup de sang, comment je tenais debout, et là, ils nous ont dit ce que c'est lui, et lui avait donné ses deux autres compagnons. D'accord. Et François, moi, de ce moment, je ne les ai pas reconnus. François les a reconnus, et là, ça s'est déclenché. Ils ont accepté notre plainte, et ils nous ont dit on va vous emmener à l'hôpital français d'Istanbul. Donc, je me suis dit ouf. Je vais voir un médecin français, un gynécologue, on va me soigner. J'avais même pas mal, mon corps était plus là.
Oui, vous étiez en état de choc total.
J'étais en état de choc, j'allais aux toilettes et avec un petit peu d'eau dans les toilettes, j'ai essayé de me nettoyer parce que je me sentais sale. Je me sentais sale de partout, donc j'ai essayé de me laver en dessous les bras avec l'eau des cabinets, enfin c'était atroce. Et on arrivait à l'hôpital d'Istanbul le soir et le gynécologue n'avait pas pu attendre. Et du coup, on nous a mis tous les deux dans une chambre simple. En fait, on nous a amené un repas et on nous a dit que je verrais... Alors, François n'a parlé de rien et il n'a jamais voulu évoquer lui. Donc, on a réussi à porter plainte quand même dans ce commissariat pour moi. Mais lui n'a pas voulu...
Lui n'a jamais voulu avouer qu'il avait été violé, voilà. En fait.
Et en fait, même avec moi, après, il a toujours été dans le déni. Il m'a dit non, je me suis débattue parce que je voulais remettre la voiture sur les roues et tout, mais... Voilà,
vous savez, vous avez entendu. Est-ce qu'il y a eu un procès et est-ce que ces hommes ont été punis pour ce qu'ils avaient fait ? Avant que nous parlions de vous, ensuite, des conséquences de cette histoire.
Alors, finalement, j'ai été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique en Turquie parce que le gynécologue n'a pas constaté le viol parce qu'il n'y avait plus de traces de sperme, donc il a juste constaté des blessures et là j'ai pété un câble, donc j'ai été hospitalisée pendant une semaine et plus de nouvelles et en fait la plainte, on ne savait pas où il était, j'avais plus de nouvelles de François, lui avait été mis dans un hôtel, il visitait Istanbul et un jour j'ai vu un médecin arriver, un médecin sans frontières, il m'a dit écoutez, on a été alerté par le garage qui a récupéré votre voiture avec votre immatriculation et votre assurance, c'est votre assurance qui nous envoie, vous allez voir un avocat, vous allez rentrer à Paris, on va vous transporter en avion sanitaire, on va vous déposer dans un hôpital, vous allez être pris en charge. Et donc de là, l'assurance a pris en charge, alors que ce n'était pas du tout prévu dans mon contrat. Je suis tombée sur un monsieur qui était très choqué en fin de carrière parce qu'il nous était arrivé. Et du coup, il m'a dit, écoutez, nous, on vous prend un avocat. Et donc, il y a une avocate qui a pris l'affaire en main. Et le procès a duré 6 ans. Donc, les 3 hommes ont été incarcérés tout de suite. Et le procès a duré 6 ans. Alors, 6 ans pendant lesquels, j'étais à fond dans mon travail et dans la musique classique. Et voilà, dans le déni aussi, comme si ce n'était pas arrivé. Et par contre, j'ai craqué à la fin du procès quand l'avocate. Alors, il y avait des commissions rogatoires où on demandait de repartir là-bas pour expliquer à chaque fois ce que chacun avait fait. Et à chaque fois, ça se passait à la gendarmerie du coin avec des jeunes gendarmes qui n'étaient pas formés du tout à ça et qui étaient plus gênés que moi que de me poser des questions. Et finalement, il y a eu un procès. Le procès a abouti. Ils ont été condamnés dans un premier temps à 18 ans de prison, tous les trois. Et dans un second temps à perpétuité. Et on m'a demandé après si je voulais, par rapport aux indemnités, poursuivre donc moi toute seule avec les avocats en Turquie qui s'occupent aussi de ça avec l'avocate en France. Et bon, on m'avait proposé une indemnité que j'ai acceptée et j'ai décidé de plus en entendre parler. Par contre, j'ai eu des nouvelles par mon avocate 3 ans plus tard et j'ai su que le plus jeune s'était pendu dans sa cellule et les 2 autres étaient de la garde de Bosnie. Avait éclaté, s'était engagé plutôt que de rester en prison en Bosnie.
Bon, alors,
c'était fait descendre pendant la guerre. Les 3 sont décédés.
Les 3 sont décédés, mais en tout cas, au moins été condamnés. Et je pense que ça a tout de même eu un sens pour vous à l'époque, peut-être menu, mais il est important ce type d'histoire qu'au moins les auteurs soient condamnés. Avant que nous abordions. L'impact que cela a eu sur vous dans les mois et dans les années qui ont suivi. On marque une pause et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Nous sommes toujours avec Nathalie et nous évoquons ce soir un voyage qui a mal tourné, un voyage qui peut mal tourner hein, parfois lorsqu'on est imprudent, comme le compagnon avec qui vous aviez décidé de voyager, Nathalie, puisque ce jeune homme, François, vous incitait hein, à dormir dehors. Vous n'étiez pas très rassuré, on le sent. Hein, parfois, vous évoquiez la falaise tout à l'heure avec ces hommes qui se baignaient tous les jours. Ensuite, cette campagne où on sent que vous vous protégez à l'intérieur de la voiture en sentant qu'il peut se passer quelque chose. À force d'imprudence, voilà, vous nous racontez ce soir l'agression, le viol que vous avez subi par 3 hommes, 3 paysans turcs, ainsi que votre compagnon qui n'a jamais voulu reconnaître qu'il avait été violé et donc n'a pas porté plainte. Les 3 agresseurs ont donc été condamnés. Ils sont depuis décédés pour de multiples raisons, notamment avec la guerre de Bosnie où ils se sont engagés. Vous, les mois qui suivent ça, lorsque vous rentrez en France, les années qui suivent, comment est-ce que vous gérez cet événement-là ? Au-delà de la condamnation, au-delà, vous voyez, de l'aspect justice, vous, psychologiquement.
La condamnation, je l'ai apprise 6 ans après. En fait, il y a eu 6 ans de procès. Et psychologiquement, je suis rentrée en France. Donc, on est arrivé en avion sanitaire, conduit à l'Hôtel Dieu. On est arrivé de nuit. On a vu un psychiatre. Et le psychiatre, moi, personnellement, m'a demandé. Donc, j'avais été soignée aux urgences de l'Hôtel Dieu un peu plus que dans cet hôpital, finalement, turc, où j'avais perçu beaucoup de soins. J'avais perdu mes cheveux. J'avais perdu 10 kilos. Enfin, j'étais très anémie, etc.
Ouais.
Et à l'Hôtel Dieu, en fait, on nous a demandé ce qu'on souhaitait, et moi je leur ai dit je souhaite rentrer chez François parce qu'on habitait quand même quasiment à temps complet dans son appartement dans le 15e, et prendre un bain et me laver parce que finalement je m'étais quasiment pas lavée là-bas entre l'autisme. Et du coup, donc on n'a pas vu de psychiatre. On a juste vu un médecin aux urgences qui nous a donné quelques antibiotiques, qui m'a proposé de faire des tests pour le sida, enfin pour la syphilis, les maladies sexuelles. Donc à moi, François était toujours en fait très effacé dans la salle d'attente, etc. Donc on est rentré chez lui et c'était le samedi, et le lundi matin j'ai appris mon travail et j'ai été assistante de direction. Donc je me suis habillée en tailleur, je l'ai camouflé toute la partie de cheveux que j'avais perdu. J'ai repris mon travail, je suis retournée chez mes parents. Très rapidement, François m'a dit qu'avec ce qu'il avait vu, il ne supportait plus, il ne me verrait jamais comme avant, donc ce n'était plus possible qu'on voit, donc on s'est quitté. Et je suis retournée habiter chez mes parents, et pendant 6 ans, en fait, ça a été une vie, je dirais, sans relation, ou avec une relation peut-être où j'étais complètement dans le déni de mon corps, en fait. Bon, voilà, c'était un été, garçon, on avait envie, on était bien, il faisait chaud. Mais vraiment comme si, enfin, j'avais l'impression que j'étais un objet et je ressentais absolument rien du tout, et ça a été la seule fois que ça s'est produit pendant ces années-là. Et du coup, voilà, j'étais en fait, on m'a pas proposé, alors tout au long du procès, j'ai quand même vu l'avocate tous les mois qui me demandait à chaque fois comment j'allais, si j'étais suivie, si je faisais une démarche, si je voyais un psychiatre, etc. Et je lui disais non, j'en ai pas besoin. Enfin, quand je la voyais, quand il y avait des commissions, donc où je rencontrais par l'intermédiaire de la gendarmerie, des personnes qui me redemandaient qui avait fait quoi, dans quelles conditions, ça fait que je répète incessamment les choses. Une fois que je sortais de mon travail, j'allais à la gendarmerie parce que j'étais convoquée. Et le lendemain matin, je travaillais, je rentrais du travail, je m'étais acheté un nouveau piano qu'on avait installé chez mes parents. Et du coup, je jouais du piano aussi tard que je pouvais. J'étais vraiment à fond là-dedans et plus du tout... j'y pensais pas en fait. Il s'était rien passé. La seule chose qui me faisait peur, c'est que j'ai plus de règles pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, j'étais persuadée que j'étais enceinte en fait d'un de ces hommes, et j'avais un désir d'enfant depuis toute petite, un désir mais vraiment très intense,
oui,
d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et après, en grandissant, je me suis dit, et même maman m'avait dit, tu sais, maintenant t'as 20 ans, moi je vais pas avoir un enfant, mais peut-être toi, quand tu rencontreras l'âme sœur, t'auras un enfant. Et du coup, mon questionnement les 6 premiers mois, ça a été, j'ai pas mes règles, donc je vais être enceinte. Et tous les mois, j'avais mes règles, et tous les mois, je faisais des tests de grossesse. Et ma grande question, c'était si je l'ai, est-ce que je le garde ou pas. Et ça a été super difficile à vivre, parce que je me regardais, j'avais même pris du ventre, et j'avais l'impression que, j'étais enceinte, et j'avais presque peur de ça. Et puis j'ai fait face aussi, j'en ai pas du tout parlé au début, et c'est quand ma voiture a été rapatriée quelques mois après, du coup elle était restée en Turquie parce que elle était complètement endommagée, et elle a été rapatriée. Moi je vivais chez mes parents, j'en ai pas parlé à mes parents, et je pense qu'ils s'étaient rendu compte, surtout mon père, que ça allait pas, mais il disait rien. J'avais un accident, donc on était revenu en avion. Bon, voilà, j'ai travaillé, tout allait bien, j'étais toute pimpante, toute maquillée, très gaie, la Nathalie qu'ils avaient toujours connue. Et un jour, il y a eu un appel du garage, donc chez mes parents, qui prévenait que ma voiture était revenue de Turquie, et papa était voir la voiture en fait. Et là, quand je suis rentrée le soir du travail, il m'attendait, il m'a dit, mais Nathalie... t'as pas eu un accident, la voiture est criblée de balles, il y a du sang, il y a du verre cassé partout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, pour la première fois, je lui ai dit. Et en Turquie, on m'avait demandé si je voulais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'on m'avait posé la question, est-ce que je voulais prévenir mes parents? Donc dès que j'ai été à l'hôpital français d'Istanbul, j'avais dit non parce que papa m'avait toujours dit c'était c'est toujours d'ailleurs un bâton, un ancien para de la guerre d'Algérie. Il avait toujours dit si on touche un cheveu de mes enfants, je suis capable de tuer. Et moi dans ma tête, quand on m'a dit est-ce que vous voulez prévenir vos parents, je me suis dit surtout pas parce que papa il va venir, il va commettre un meurtre, il va se retrouver en prison en Turquie, et il sortira pas de là. Et du coup j'ai préféré garder le silence pour le protéger. Mmh. Et ce soir-là, quand il l'a su, du coup, j'ai craqué. En fait, la déprime a commencé à partir du moment où je lui en ai parlé à lui. Ma mère n'était pas très, très maternelle et n'a pas vraiment capté les choses. Et du coup, il a eu une parole un peu malheureuse. Il m'a dit surtout, n'en parle jamais à personne. Mmh.
Bon, en tout cas...
Et là, j'ai senti la honte, vous voyez, me remonter. Vous honte disiez... que j'ai gardée, que je garde encore maintenant, parce que j'en parle pas, j'en ai quasiment jamais parlé. Mmh. Et...
Vous disiez, en tout cas, Nathalie, que tout ça, vous était remonté de manière assez violente au moment où vous aviez rencontré votre mari, en fait, hein?
Exactement, parce que figurez-vous que le jour où l'avocate m'a appelé en disant « voilà, le procès est terminé, donc ils ont pris 18 ans et on vous propose 90 000 francs de dommages et intérêts. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous acceptez pas ?» Donc j'avais eu rendez-vous avec elle. À cette époque-là, j'avais quitté la maison de mes parents, j'avais pris un petit appartement toute seule. Et en face de mon appartement, un monsieur qui était en instance de divorce s'était installé quelques mois auparavant. Et ce soir-là, en fait, quand je suis rentrée chez l'avocate et que je me suis dit c'est fini, ils sont emprisonnés 18 ans, ça me paraissait toute une vie à cette époque-là, donc je pensais pas qu'un jour ils allaient sortir. Et du coup, j'ai croisé ce monsieur, on se disait bonjour, il baladait son petit chien. Et ce soir-là, j'étais, je pense, dans un état peut-être différent qu'il me croisait d'habitude. Et il m'a dit, mais il s'est passé quelque chose dans ta vie, et si tu veux en parler, tu peux monter me voir, j'habite face au premier étage. Et je suis montée le voir, et je lui ai tout expliqué. C'est la première fois que j'en parlais à cœur ouvert. Et ce monsieur-là est devenu mon mari. Bon, ça a été très rapide. On est parti 2 mois après, on est parti ensemble, alors en toute bienveillance, parce qu'il savait que j'avais pas envie qu'on me touche. Et finalement, on est partis en week-end tous les deux, et c'est moi qui ai eu envie d'aller vers lui. Et 2 mois après, alors j'avais été gravement blessée, et en plus j'avais appris que j'avais une endométriose, donc j'aurais énormément de mal à avoir d'enfants, donc il le savait. Et en rentrant le week-end, il m'a dit « Écoute, moi je voudrais qu'on tente de fonder une famille, si on n'a pas d'enfants, on en adoptera, mais en tous les cas, je t'aime comme tu es ». Et je me disais qu'il accepte, et encore maintenant, on a eu des moments difficiles, mais encore maintenant, je lui suis reconnaissante, parce que je me dis, il m'a acceptée, j'étais souillée, j'étais plus une femme, et il m'a acceptée, il voulait m'épouser, il voulait fonder une famille avec moi, ce qu'il n'avait pas eu.
Il vous aimait, voilà.
Il m'aimait vraiment, m'a fait la cour, il a été délicat, il a été patient, il a été discret, et du coup, très rapidement, il m'a dit, écoute, je voudrais qu'on se marie. Et puis on verra. Et puis finalement, moi j'ai laissé mon appartement, lui a laissé le sien. On a décidé de s'installer ensemble quelques mois plus tard. Et le premier mois où on s'est installé ensemble, donc on avait très peu de rapports et en plus pas protégé parce que je savais que ce serait très difficile pour moi d'avoir des enfants. Et au bout de 2 mois de vie commune, un jour où je me suis tout d'un coup rendu compte que ça faisait 2 mois que j'avais pas mes règles, j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte. Et je lui ai dit, il était heureux, moi aussi. Mes parents étaient un peu surpris, trouvaient que ça allait trop vite. Et du coup, pendant toute cette grossesse, j'ai été très malade et je suis revenue, en fait, j'étais reconnaissante, vraiment reconnaissante de mon mari, mais je me disais qu'il n'y avait pas quelque chose de vivant qui pouvait sortir de mon corps.
Mais bon, vous êtes tombée enceinte au final.
Je suis tombée enceinte et tout a basculé quand mon fils Sébastien, mon fils aîné, est né, quand il est sorti, qu'il a pleuré, qu'on me l'a posé sur mon ventre. Là, je me suis dit, je suis une femme, je suis une mère, je suis une épouse. Et là, c'est comme si tout s'est effacé. Et je crois qu'encore maintenant, tout a été effacé ce jour-là. Et alors, cet enfant a une place particulière. Mmh. Et du coup, ça a redéclenché chez moi aussi une sexualité, une envie de vivre, une joie de vivre, une façon d'apprécier les choses différentes et aussi une sexualité du coup.
Comme quoi ?
Très épanouie avec mon mari parce que voilà, j'avais passé le cap. Et ce qui m'a toujours maintenue, en fait, c'est que j'avais envie d'avoir un enfant et je m'étais dit, si j'en ai pas, je me suiciderais, mais si jamais je réussis à en avoir, je vivrais pour lui.
Comme quoi, Nathalie, c'est au bout de cette histoire qui a été assez compliquée, hein. Vous êtes nombreux à témoigner que cette histoire est dure et que c'est compliqué pour certains à entendre. D'autres soulignent l'aspect important de dire que à l'étranger comme ça il ne faut pas se balader comme ça et le nez au vent sans savoir. Mais en tout cas, je resterai sur ces derniers mots où vous évoquez l'amour qui a fini par vous sauver, l'amour de votre mari et qui a fini par faire de vous, comme vous dites, une femme, même si vous l'étiez, vous avez été très courageuse d'aborder tout ça, en tout cas d'affronter tout ça. Mille merci d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Nathalie. Et puis, écoutez,
ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère sincèrement que des personnes qui peut-être ont vécu ça récemment sauront qu'il y a une vie après le viol. Et moi, cette vie, enfin, je suis maman de 3 enfants, je suis très heureuse, très épanouie. Et je pense que cette vie-là, vraiment, il faut s'y accrocher parce que la vie, elle est plus forte que tout. Vous voyez, enfin, j'ai vécu l'horreur et personne ne le sait. Et je crois que personne ne pourrait imaginer. Et c'est très bien que j'ai témoigné par téléphone. Du coup, voilà, on peut s'en sortir. Enfin, on est une force, on ne se connaît pas. Mais c'est tout n'est pas perdu parce qu'on a vécu un drame comme le mien ou même un viol simple. Enfin, je pense que dans tous les cas, c'est très difficile.
Oui, l'amour peut sauver. Mille merci, Nathalie,
de
nous avoir appelés. Passez une bonne soirée et puis vous embrassez votre famille pour nous. Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre écoute.
Je vous en prie. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921 50 centimes la minute.